Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Et je considère notre groupe un groupe de recherche, un laboratoire, parce que devant la complexité c'est le mystère pour moi. Et donc, ce que je partage avec vous, c'est mon expérience de la question. Et non pas une quelconque ambition d'en savoir plus que quiconque sur le mystère, qui par définition est inconnaissable. En guise de, au seuil, disons, d'une petite exploration qu'on va faire ce soir, et je pourrais la faire aussi grâce à Claude, qui est un proche collaborateur. Depuis plusieurs années, on travaille ensemble. Donc, tout ce que je présente là est aussi en partie co-construit ensemble avec une équipe plus large, mais en particulier avec Claude. Et dans la deuxième partie de la soirée, on aura l'occasion d'échanger, enfin de faire questions-réponses.
Le meilleur rappel à l'unir.
Merci. Questions-réponses, où là, on sera tous les deux à participer au débat. Comme ça, vous n'aurez pas la même voix et la même monotonie. Et donc là, pour le moment, Claude va m'assister, disons, avec différentes diapositives, très peu dans l'ensemble, mais juste ce qu'il faut pour faciliter la compréhension. Alors, ce que j'aimerais, c'est, pour le moment, avant d'aller plus loin, c'est de voir les conditions de l'approche, je ne parle même pas trialectique, mais ternaire, de la complexité. Parce que souvent, on prend, tout à l'heure, on a parlé de sujets pointus. Alors, la complexité, l'approche ternaire, la trialectique ou autre chose, effectivement, on se dit, oh là là, c'est pas pour l'homme de la rue, c'est pas pour le tout venant, c'est pas pour la quotidienneté. Je ne pense pas. Personnellement, ça a été ma thérapeutique pour pas devenir fou et pour me sortir de pas mal de problèmes personnels au fil des 50 dernières années. Une chose que j'aimerais mettre en avant, un peu comme quelque chose qui m'a frappé et qui m'aide encore aujourd'hui comme repère, c'est que, au fond, quand je perçois, je vous perçois, je perçois toute chose, je perçois dès que je nais, naître c'est percevoir, eh bien, je suis toujours confronté à trois limites. Trois limites que, et peu à peu, j'ai mis un nom sur ces limites. Une limite qui est impartial, une limite qui est que je vois les choses d'une manière partielle, pardon, une autre qui est que je vois les choses dans la partialité, et une troisième qui est dans la parcellarité. Donc partiel, partial et parcellaire sont trois formes de la limite que j'ai découvert comme étant non seulement une expression de la finitude, mais au fond le trépied sur lequel je peux construire la solidité de ma vie, paradoxalement. En tout cas, je n'ai pas de possibilité de faire autrement. Et là, on se rend compte que c'est quelque chose du quotidien. Je ne connais rien qui ne soit soumis à ces trois limites, ces trois formes de la limite. Et au fond, tout part de là, pour moi. Tout part de là. Et à partir de là, je voudrais vous proposer un plan pour la soirée. Pour la soirée, enfin, un plan. Je ne vais pas, en principe, parler très longtemps. En premier, dans ce plan, merci, je vais introduire l'approche ternaire, mais sous l'angle des conditions sans lesquelles, qui empêchent l'approche ternaire si elles ne sont pas réunies. Et vous allez voir que ça n'a rien de très scientifique et de très élaboré. En deuxième, on abordera la modélisation de la dynamique du manque. Et là, on voit bien que cette affaire est scientifico-sociale, ce n'est pas uniquement une affaire de rigueur scientifique. En troisième lieu, l'approche systémique ternaire comme multiplication de l'information. Parce que, évidemment, il faut voir quel est l'avantage de tout cela. Et en quatrième lieu, plus précisément, à quoi ça sert. parce qu'on est quand même en Occident et on a envie de voir l'efficacité de ce qu'on exprime ou d'une nouvelle idée. Voilà. Alors, je reviens donc aux conditions de l'approche ternaire et je pose que ces trois limites, le partiel, le partial et le parcellaire, titre du prochain livre, est la reconnaissance, le travail autour de ces trois limites sont une condition de l'approche ternaire. C'est-à-dire que l'approche ternaire complexe n'est pas possible s'il y a quelque part une non-limite. Alors, j'aimerais juste extrapoler un petit peu autour de ça. Je voudrais vous parler de la viabilité, ou évoquer la viabilité. Au fond, la viabilité, c'est le maître mot de la vie. C'est la capacité, en latin, la viabilité, c'est en fait un chemin carrossable. C'est ce qui fait qu'un chemin peut être emprunté par un véhicule. Et nous, on a fait... Alors là, je parle du monde francophone, donc tout ne fonctionne pas de la même manière dans les autres langues, quoique les autres langues aient des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas dans la nôtre. Donc chacun a ses points forts. Mais c'est à la fois la capacité de vivre et la praticabilité de la route. Donc le mot viabilité est extrêmement intéressant. Et c'est à la fois un état et un itinéraire. Et au fond, ils sont mutuellement constitutifs. Et vivre, c'est être en route, et être en route suppose de vivre. Alors, au fond, les modélisations formelles, qu'elles soient religieuses, idéologiques, philosophiques ou logiques, sont l'inévitable conséquence de la nécessité de trouver une route praticable. Et au fond, l'une de ces modélisations, c'est l'approche binaire. Une autre sera l'approche ternaire. Mais leurs prémices sont radicalement différentes, quoique corrélables, et on va le voir. Alors, au fond, l'approche systémique, je la vois, et l'approche ternaire, je la vois comme procédant de cette recherche de viabilité. Et de ce point de vue-là, ce que j'expose ce soir est très existentiel. C'est pas cérébral, c'est quelque chose qui touche au cœur de la recherche d'identité. Alors donc, je pose que la subjectivité et la finitude sont les conditions de l'approche ternaire systémique. Et je voudrais dire que, pour moi, si on imagine une objectivité universelle, c'est-à-dire absolue, alors c'est pas la peine de continuer à chercher une approche ternaire d'étudier la complexité, parce qu'elle disparaît complètement. Et je voudrais expliciter un peu ce que j'entends par là, tout étant évidemment critiquable. La subjectivité, on est réputé avoir 5 sens. Mais curieusement, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais tout de même, on se fait prendre au piège d'une manière ou d'une autre, et moi le premier. L'odorat, le goût et le toucher, on admet volontiers qu'il y a une certaine subjectivité, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, ben là c'est granuleux, ici, oui, c'est peut-être une table, c'est pas sûr, ça va. Par contre, la vue, alors là, d'un seul coup, elle devient absolument objective. Enfin, il y a des exceptions, il y a des... Mais enfin, quand même, il est difficile de vraiment accepter le fait qu'il n'y aurait rien qui soit vu et qui ne serait quand même pas absolument objectif. Et... Par exemple, on dira, je l'ai entendu l'autre jour à la radio France Inter, là, puisque je viens de France, j'ai entendu, ouais, la Lune ne tourne pas, parce que sinon on ne verrait pas toujours la même face. Et j'ai trouvé ça fabuleux, je veux dire, puisque si on voit toujours la même face, c'est précisément parce qu'elle tourne. Et ce qui nous donne cette impression, c'est qu'il y a une corrélation extraordinaire, une synchronisation entre la vitesse de rotation de la Lune et celle de la Terre. Ce qui fait qu'on a toujours la même face. Quoi qu'il y ait des libations, c'est-à-dire que elle fait ça, la Lune. Donc, de temps en temps, on voit un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Mais dans l'ensemble, on dit, voilà, c'est comme si, on fait comme si. Et donc, il y a 1 milliard, enfin, 6 milliards, 7 milliards peut-être de gens qui disent, la Lune ne tourne pas. Et donc, on en fait une objectivité. Mais 6 milliards de subjectivités font-elles une seule objectivité? Donc, dire que la vue, je passe un peu de temps là-dessus parce que vous allez voir que c'est directement corrélé. Dire que la vue serait un des cinq sens, certains disent il y a d'autres sens, mais je parle des sens physiologiques. Dire que la vue serait le sens qui permettrait de voir objectivement, universellement, serait dire, c'est dire que ce que nous voyons, contrairement aux autres sens, ne passe pas par l'interprétation de notre cerveau. Et donc, ce serait causalement non relié. Et pourtant, bien que ce soit causalement relié, non relié, nous aurions une relation. Mais ce qui n'est pas causalement relié est totalement étranger, monstrueux, si on veut dire. On ne sait même pas qu'on ne sait pas. Donc, on s'aperçoit que, dans un domaine ou l'autre, religieux, ou matérialiste, on va dire que ceci existe indépendamment de moi. Je pose que de dire ça met un coup d'arrêt à toute recherche et à toute mise en œuvre d'une approche complexe, ternaire et a fortiori trialectique. Donc, c'est très provocateur, mais et on est un peu ambivalent, on est d'accord, puis en même temps, on se dit quand même, il y a des choses qui existeraient même s'il n'y avait pas l'humanité. Ah, c'est la question que je pose. Et ceci m'amène à, pour finir la question de la subjectivité, à mettre en valeur la différence entre le réel et la réalité. C'est-à-dire que je ne traite pas du réel, je l'entends par le réel ontologique, c'est-à-dire l'inconnaissabilité. Et je parle de la réalité phénoménologique, celle que j'interprète, et que j'interprète moi, et chacun pouvant dire « moi ». La fin du monde, la fin de l'humanité est-elle constatable? Elle l'est constatable tant qu'il y a une personne qui reste. Une fois qu'il n'y a plus d'humanité, y a-t-il quelqu'un pour dire il n'y a plus d'humanité? Non. Il n'y a plus personne pour dire. Donc l'humanité a-t-elle pris fin? Je n'en sais rien. Et je suis heureux de ne pas aller plus loin et de ne pas essayer de transformer le mystère en du non encore connu. Tout est sujet d'interprétation de mes sens. Je dis ça non pas, c'est tout à fait opposable, mais je le place comme condition de l'approche ternaire qui est éminemment centrée sur la représentation. Un deuxième point, donc, concerne la finitude. C'est corrélé. Et la finitude, au fond, nous admettons que la finitude caractérise notre condition d'être vivant. Et pourtant, nous n'avons de cesse de rechercher la non-finitude dans la finitude. Soit par la science, soit par l'imaginaire. Le mouvement perpétuel, l'énergie pure, c'est une des plus puissantes chimères, je veux dire. L'énergie atomique nous en rapproche un petit peu, le combat matière-antimatière, etc. L'énergie est inatteignable, on ne sait pas ce que c'est. C'est l'accès à l'énergie, toujours. Le pétrole, ce n'est pas l'énergie, c'est un accès à... L'énergie pure, on la souhaiterait, sans dispositif intermédiaire. Et donc, c'est une chimère que nous poursuivons. La particule première, il y a des scientifiques de grande volée qui m'étonnent toujours à chercher la particule première. Alors que quand on la trouvera, on sera cette particule, on sera le tout, ou on ne sera plus là pour dire qu'on l'a trouvée, parce que ce sera causalement indépendant. La particule première, c'est tâcher de trouver un bâton qui, à force de le réduire, n'aurait plus qu'un bout. C'est ça pour moi. Donc, se tranquilliser par rapport à ça et cesser de se taper la tête dans des directions qui sont tout sauf une viabilité. L'éternité, la perfection, c'est-elle sain et parfait? Ça veut dire quoi, la perfection? J'en sais rien. C'est forcément quelque chose qui dépend d'un certain nombre de critères, d'une moralité, etc. Donc, c'est vraiment le royaume de la réalité phénoménologique. Donc de là naissent nos utopies et nos modèles voulus comme hors du monde fini. Alors, je voulais juste faire ce petit préambule Parce qu'on associe rarement, finalement, ce travail et cette étude de la complexité, de l'approche ternaire, dont j'ai découvert qu'elle fait rage sur toute la planète, et pour cause. On se pose des questions sur l'approche binaire, et on se dit l'approche ternaire permettrait ceci, ceci et cela. Tout en refusant, finalement, de contextualiser l'objectivité, en disant, mais l'objectivité est toujours contextuelle. À ce moment-là, on peut en parler, mais certainement pas universelle, parce qu'à ce moment-là, elle échappe à notre causalité, on ne peut plus la voir. Mais cette incohérence-là, on ne la voit pas. Mais elle empêche et elle stérilise immédiatement et définitivement, selon moi, cette progression vers un traitement ternaire de la réalité phénoménologique. Alors, là, je suis très sérieux, en fait, il y a vraiment de quoi rigoler. Je veux dire, c'est pas un sujet triste du tout, mais j'essaye d'être clair et cohérent pour la compréhension. Alors, je voudrais donc, maintenant, j'ai été très rapidement sur les questions de la condition de l'approche ternaire. Maintenant, le deuxième point, la modélisation de la dynamique du manque, on va l'aborder. C'est-à-dire que, à partir de là, partiel, partiel, parcellaire, quoi ? Comment est-ce que je vais construire quelque chose qui va me permettre de fixer, d'orienter mes actes, mes pensées, sachant que le partiel et le parcellaire sont des notions quand même assez abstraites et que moi, je vais avoir à traiter avec des problèmes d'impayés dans mon entreprise. Je suis dans le bâtiment, donc, où je vais avoir... je m'engueule avec mon voisin, etc. etc. Donc, quelles vont être les courroies de transmission ? Ce soir, donc, on va vraiment aller très, très vite, évidemment, hein, puisque c'est une approche et une étude qui demande, en tout cas pour moi, beaucoup de temps. Mais on va reprendre donc le partiel et le parcellaire comme trois éléments connexes de la perception. Je pense que là, on va passer peut-être au suivant. On va déjà faire un petit pas. Pour essayer de positionner ces trois limites, formes de limites, par rapport à ce qu'on appellera peut-être un référentiel. Le partiel, c'est le fait que il y a incomplétude, c'est-à-dire que en toutes circonstances, la totalité n'est pas possible. Et on va pouvoir, par exemple, la définir comme étant là d'où je vois, je ne vois pas. Étant dans le tableau, il y a là où je suis un lieu de cécité, quoi que j'y fasse. Et comme c'est moi qui observe et que je suis toujours dans le tableau, il y aura toujours quelque part un lieu de cécité qui est là où je suis. D'où la nécessité du travail d'équipe et d'où le fait que il faille toujours que je remette l'ouvrage sur le métier. Donc, incomplétude est, disons, comment je caractériserais d'une manière englobante le fait partiel. Le fait partiel, il est le fait que tout passe par moi. Et ça n'est pas l'égocentrisme. C'est-à-dire que je suis incapable de savoir comment chacun de nous ici perçoit la situation, le cadre, le milieu ici. Je sais comment je le perçois, et je sais qu'on est tous d'accord, nous sommes dans un amphithéâtre, nous sommes à Bruxelles, on est tous d'accord avec ça, mais la perception de la chose, elle va être différente dans le récit qu'on va en faire. Et encore, une fois que j'entendrai quelqu'un d'autre me raconter cette soirée à laquelle j'ai participé, j'aurai ma propre représentation de ce qu'il a dit, et le lendemain il va le redire, et il aura lui-même une représentation différente parce que les choses auront passé, et à nouveau je le dis. Donc,
Le partiel, c'est ce que j'appelle globalement au même niveau que la complétude, comme repère épistémologique, je dirais l'autoréférence. Et puis le parcellaire, c'est le fait que, au fond, quand j'observe quelque chose, ou j'observe quelqu'un, je ne peux pas voir tout nettement. Il va me falloir localiser. Je vais, comme pour une caméra, focaliser. Et quand on regarde le visage de quelqu'un dans un échange, et on ne le voit pas entièrement net, on va donc fixer. Et comme on ne peut pas fixer son regard toujours au même endroit, on va se balader sur le gauche, le droit, le nez, la mâchoire, etc. On sait tout ça, même si on n'est pas très conscient. J'ai toujours trouvé ça d'ailleurs désagréable. Je voudrais pouvoir focaliser nettement sur l'entièreté du visage de quelqu'un. Et bien donc, au tel point, si jamais je me fixe sur l'oreille gauche, par exemple, c'est très gênant pour la personne, au bout d'un moment. Donc je vais me balader. Et on n'arrête pas de faire ça. Et c'est vrai que quand on voit des films où on voit des gens qui... On voit leurs yeux qui font ça, comme ça. Ça m'amuse toujours parce que c'est précisément le problème du parcellaire. Et aussi petit qu'on focalise, il y aura toujours une partie qui restera en dehors de la focale. Et voilà. Et c'était une limite. Et nous l'appelons indétermination dans le sens de Heisenberg. C'est-à-dire que la détermination n'est pas... que les choses ne soient pas déterminables, etc., c'est que je prête les propriétés à l'objet que je regarde. Avant que je le regarde, il n'a pas de propriété par lui-même. Et je ne prête à cet objet que les propriétés que je suis capable de lui prêter. Aujourd'hui, maintenant, dans cette situation. Alors, on a donc l'incomplétude qui n'est pas l'inachevé. Je fais des chantiers, je ne serai payé que s'ils sont achevés. Mais dans l'incomplétude, c'est-à-dire qu'il va y avoir une négociation avec le client et on va tâcher de se rapprocher au maximum d'une clarté de définition du degré auquel je dois pousser la finition. Et c'est là tout le litige, souvent. Non, etc. Oui, le cahier des charges. Comment faire un cahier des charges sans faute de ce point de vue-là? C'est impossible pour raison d'incomplétude. Mais dans l'ensemble, on va tâcher donc et le chantier sera soumis à l'incomplétude, mais sera achevé, parce que on va achever le degré. Ensuite, l'autoréférence. Alors, l'incomplétude n'est pas l'écocentrisme. Guillaume Morin a écrit tout un truc, j'ai trouvé là, qui est assez très intéressant sur la différence entre l'écocentrisme, l'incomplétude n'est pas l'inachevé. Quand on passe à l'autoréférence, le partial, c'est de ça dont je parlais tout de suite, j'allais un peu vite, c'est le fait que tout va transiter par moi. Et ce n'est pas un égocentrisme, c'est complètement différent de ça. C'est le fait que je suis le canal et je suis le centre ou le cœur de mon monde. Mais je reconnais à chacun la capacité, le droit de dire mon monde. Et je n'ignorerai jamais ce que c'est que son monde. Et ensuite, l'indétermination n'est pas le flou. L'indétermination, au contraire, est l'origine de la rigueur. Et si on va chercher chez Bernard Heisenberg, prix Nobel de physique, qui est le chantre de la mesure, il dit la mesure est impossible dans l'absolu. Elle est déterminée par les propriétés que je projette. Et là, c'était la physique quantique. Donc voilà, les invariants fondamentaux, c'est ce qu'on appelle incomplétude, autoréférence, indétermination, à partir de partiel, parcelle. Donc vous voyez que on est en train là de faire de l'épistémologie et d'essayer de conceptualiser. Trois formes de la limite pour voir si on peut en faire quelque chose de viable pour notre vie de tous les jours, dans le sens très quotidien où j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Alors, on va juste revenir sur l'incomplétude et sur les trois invariants. On progresse un petit peu, mais toujours en restant avec des expressions populaires, enfin qui traduisent à quel point on a tous... des démêlés, des tribulations avec ces affaires-là, mais sans trop s'en rendre compte, parce qu'on les met rarement ensemble. Tout est dans la synthèse. Donc, je disais tout à l'heure, là d'où je ne vois pas. C'est le point aveugle. Là où je suis dans une... Ma zone de présence est une zone de cécité. Et donc, je demanderai à l'autre personne, que vois-tu là où je ne vois pas ? Mais la même personne ne verra pas là d'où elle voit, où je ne vois pas, etc. Donc il y a toujours une case vide. L'arbre cache la forêt. Donc, c'est l'angle mort. C'est une autre forme de l'incomplétude. C'est-à-dire qu'un objet, je ne pourrai jamais le voir sous tous les angles à la fois, à moins de me déplacer. Donc là, il y a du mouvement. Mais, ensuite, le mieux qui est l'ennemi du bien, c'est la taille critique. C'est-à-dire que plus une chose va vers une totalisation, une dictature, plus elle construit en elle-même ce qui va l'anéantir. Je pense qu'il y a quelque chose dans la croissance, l'apogée et la chute des civilisations qui a à voir avec ça. Après, il y a toujours une armée ennemie qui vient et qui défait la civilisation qui était anciennement si puissante. Mais en fait, ça répond à un fait naturel qui est que plus on devient le tout et plus on perd, on n'est plus capable d'identité, plus ce tout secrète en lui ce qui va l'empêcher d'être le tout. Un truc un peu rigolo comme ça, mais pour parler absurde, si y a un dos d'âne pour ralentir les voitures et qu'elles ne ralentissent pas assez, je vais en mettre un deuxième. Et je vais en mettre un troisième, puis un quatrième. Et puis après, je vais mettre 10 000 dos d'âne jusqu'à ce que je retrouve une route lisse. Donc, un maximum de dos d'âne est une route lisse. Donc, si je veux freiner les voitures, il ne faut pas plus que 2 ou 3. Et ça suffit bien. Et au fond, tout est comme ça. Alors, si on avait le temps, là, on pourrait explorer, mais il y a toutes sortes de situations qui sont d'ordre civilisationnel, d'ordre intellectuel, d'ordre scientifique, etc., qui explicitent, on dit trop d'impôts tue l'impôt, enfin bon, je veux dire, tout ça sont des expressions qui traduisent ces trois formes d'incomplétude. Ensuite, on va passer donc à l'autoréférence. La définition, une des définitions, c'est dans le champ où il m'est donné de percevoir, puisque je ne vois pas tout, je peux voir ce que je veux voir. Là, si je disais ça il y a 300 ou 400 ans, je finirais au bûcher. Et il y a des formes de bûcher aujourd'hui, qui brûlent différemment, mais qui brûlent. L'auto-persuasion, c'est-à-dire que moi qui suis entrepreneur et qui la semaine prochaine serai avec un marteau en short, parce qu'il fait encore doux, un peu en sueur, je vais taper, je vais installer un linteau, je vais percer une fenêtre, etc. Et il y a des gens qui me disent, mais si tu te laisses tomber un marteau, tu verras si ça te fait pas mal, tu verras si c'est, tu peux voir ce que tu veux voir, ce que tu peux sentir, ce que tu veux sentir. Mais nous sommes dans le registre de la représentation. Et si l'on dit, je ne traite pas avec le réel ontologique, mais avec la réalité phénoménologique, alors nous traitons avec la représentation. Et c'est de la représentation dont nous parlons. Ça n'est pas d'une réalité indépendante. Réalité, ça n'est pas d'un réel ontologique. Qui existe ou qui n'existe pas, je n'ai rien contre, je ne dis rien dessus, c'est inconnaissable. Donc je laisse ça tranquille. Ce n'est pas une option de travail. Mais on a pourtant très envie que ça soit une option de travail. Donc on fait comme si l'absolu était atteignable ou qu'on pouvait avoir une relation. Alors, ça, nous appelons ça auto-persuasion. Une autre forme d'autoréférence, c'est « je suis jugé parti », c'est l'implication. Vous voyez une relation d'ailleurs entre les trois, mais c'est une autre forme de l'autoréférence. Et une troisième, c'est « chacun voit midi à sa porte », c'est ce qu'on appelle l'appropriation. Et on a toujours, on oscille toujours, mais souvent c'est les trois en même temps, dans l'auto-persuasion, dans l'application, dans l'appropriation. Tout cela est dans le cadre des limites. On n'est pas du tout dans un absolu. On n'est pas dans une objectivité absolue. Sauf si on peut démontrer qu'il est possible d'aborder une situation en dehors de l'auto-persuasion, sans être impliqué soi-même et sans se l'approprier d'une manière ou d'une autre. financièrement, intellectuellement. Et puis l'indétermination, dans le champ où il m'est donné de percevoir, ça commence pareil, la précision de la vision est sélective. Donc il y a sélection, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Qui trop embrasse mal étreint, vous voyez, tout ça, c'est des dictons qui existent, enfin, je pense que tout le monde francophone les connaît. La circonscription. Et étroite est l'entrée du paradis, là je suis moins sûr que vous en trouvez une meilleure. Bon, c'est la focalisation qu'on a vue tout à l'heure. Alors, il s'agit donc là de la modélisation de la dynamique du manque. Alors, on va maintenant poursuivre sur un schéma, on va expliquer. Donc on progresse petit à petit, à partir du constat du partiel, du partial, du parcellaire. On monte un peu dans les hauteurs conceptuelles, mais toujours à partir de cette nécessité de viabilité, hein, c'est-à-dire capacité à vivre et praticabilité de la route. Hein. Et là, on va essayer, on s'est dit, mais au fond, c'est trois invariants, hein, définis comme ceci, point aveugle, angle mort, taille critique, auto-persuasion, implication, appropriation, indétermination, sélection, focalisation, circonscription. Ces trois invariants, au fond, jouent ensemble, puisqu'ils sont toujours présents à des degrés divers. Donc s'ils sont toujours présents à des degrés divers, eh bien, on va faire un cercle autour de chacun, on va les assimiler à une sorte de planète, la planète incomplétude, la planète autoréférence, etc. Et on va voir ce que une patatoïde sémantique, quelque chose qu'on appellera le thème ici, comment cette chose-là va se comporter, c'est-à-dire tous les thèmes de notre vie, à l'approche de ces trois planètes. Nous sommes en train de travailler à une version 3D, mais c'est très compliqué. Mais déjà là, d'avoir des cercles et des disques, c'est déjà assez coton. Alors, l'idée, c'est donc de les faire se rapprocher et recouvrir. Et ici, on a donc des fuseaux. Et là se passe quelque chose d'intéressant, mais c'est là que les choses se compliquent. Alors, et progressivement, là on ira géométriquement, on est arrivé au bout, rassurez-vous, nous nous retrouvons avec, il faut donner quelques mots d'explication, ça on a déjà vu. Partiel, partiel, parcellaire, on l'a vu aussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a recouvert, quand on a ces trois fuseaux qui apparaissent? On va prendre le thème de la perception, qui est, au fil des années de travail sur ces questions, apparaît comme fondamental. C'est-à-dire que la perception, c'est la naissance, c'est naître. La perception n'est pas entendue uniquement comme la vue, ni même uniquement comme le regard, mais comme une capacité d'information à propos d'un environnement, y compris soi-même. L'enfant qui naît percevant. Bon, il est aveugle, etc., mais très vite il verra, mais il naît percevant. Très vite, il va brailler parce qu'il associera le bruit de la porte avec l'entrée du biberon, il va brailler parce qu'il a faim. Très vite. Donc, il sera, je me rappelle très bien ce que je faisais, moi, il va être très fin. Et alors, la perception, et elle est au cœur du dernier livre là, qui va paraître, n'est pas seulement intéressant pédagogiquement, puisque partiel, partiel, parcellaire, ça parle, si je puis dire, on l'a vu, mais c'est au fond équivalent à la naissance, à la vie, à l'existant. Et donc on va choisir ce terme, sachant que on verra qu'on peut choisir tous les termes qu'on décide de traiter. Mais celui-ci a une portée générale. Alors, la question s'est posée du centre, observateur conscient d'observer. Et là, il est apparu un besoin. C'est que si l'autoréférence est ici, et donc c'est l'homme qui perçoit, ou l'observateur qui perçoit, qu'est-ce qui se passe au milieu? La plupart des modélisations mettent l'homme au centre, ou un thème au centre. Et il apparaît que mettre l'homme au centre, c'est, pour moi, me tirer par un bout pour me soulever. Ce qui, évidemment, pose un problème. L'idée de ce schéma, c'est de décontextualiser au point que on peut poser en cohérence une hypothèse, certes non vérifiable, que ce que nous exposons ici est valable en tout point de l'univers. C'est-à-dire qu'à l'autre bout de la galaxie, s'il y a un observateur, un processus, voilà, ça peut décorriger. En fait, c'est pas observateur. Enfin, actuellement, nous disons processus d'observation consciente, c'est-à-dire quelque chose de désincarné. Le fait même de un truc, un machin capable d'une observation consciente et une conscience de la conscience. Et si et ce chose-là est non opérationnel. Il est de l'ordre de l'inconnaissabilité. Il y a ici inconnaissabilité. On pourrait ne rien mettre. C'est le vide. On n'a rien à en dire. On ne sait même pas qu'il existe. Et quelque part, dans l'univers, il va y avoir un être assez physiologiquement capable de recevoir le processus d'observation consciente. Et alors, à ce moment-là, advient la perception qui prend forme d'incomplétude, d'autoréférence et d'indétermination. Et cette ici, ce que nous disons, c'est que nous avons ici un cas particulier qui est l'homme. Et pour que l'homme puisse valablement chercher sa viabilité, il ne faut pas qu'il soit le centre du monde, il faut qu'il soit un cas particulier du processus d'observation consciente. Et lui est capable de conscience de la conscience, ce qui le différencie des animaux qui sont conscients. Il est conscient d'être conscient. Il peut décrire, il peut dire je. Si nous ne faisons pas ça, si nous mettons l'homme au centre, il n'y a plus d'autoréférence. C'est encore une condition du ternaire. Si le ternaire est entendu comme regroupant trois formes de la limite, avec un grand R, le partiel, parcellaire, alors, l'homme ne peut pas être au centre. Dans une modélisation où l'homme est au centre, il ne peut pas y avoir de dernier. Il ne peut y avoir qu'un binaire. J'admets toute critique à ce niveau-là, mais cette décontextualisation, hein, cette vision de nous-mêmes comme cas particulier, et je ne suis pas en train de dire qu'il y a des êtres intelligents partout dans l'univers, je ne dis pas qu'il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Conviction personnelle là-dessus, je dis simplement que si l'homme n'est pas un cas particulier de quelque chose de général, alors il ne peut pas y avoir d'approche ternaire. Donc les implications au niveau de l'identité, les implications sociales sont considérables à ce niveau-là. Et elles sont entre autres très positives puisque nous trouvons une appartenance qui va bien plus loin que celle de la globalisation et de la mondialisation. Alors, à partir de là, et vous voyez un peu à quel point je me rends compte que je vais très vite, qu'il peut y avoir beaucoup de questions soulevées, beaucoup de désaccords, et ce soir, évidemment, ce serait de l'information, hein, qui va servir de base pour d'éventuels échanges plus tard. Mais au moins, je pose des choses et je les expose. Alors, ici, l'autre chose qu'on va dire, c'est que à partir du moment où il y a ces trois éléments qui jouent ensemble, va naître un antagonisme. Et tout le mouvement et la combinatoire qui va naître à partir de là est dû à cet antagonisme. C'est-à-dire que dans ce qu'on appellera la coextensivité, c'est-à-dire que on voit bien que dans l'incomplétude, il y a de l'autoréférence et l'indétermination. Dans l'autoréférence, dans l'incomplétude et l'indétermination, etc. Le partiel n'est pas sans comporter du partiel et du parcellaire, puisque c'est moi qui dis le partiel. Donc je dis partiellement du partiel, mais je le dis aussi parcellairement, etc., etc. Donc on va avoir une relation coextensive et en même temps singulière. On est là dans des prépondérances. Et alors que le binaire est une contradiction radicale, mais sans nuance, blanc, noir, petit, grand, intelligent, idiot, ceci, cette combinaison de la singularité et de la coextensivité va nous permettre d'avoir la nuance dans la rigueur. Et je pense que beaucoup de personnes qui quittent le binaire pour aller vers le ternaire en disant « ça au moins, ça va nous permettre de mieux comprendre le monde », reviennent souvent au binaire nostalgiquement parce qu'ils ne trouvent pas dans le ternaire la rigueur qu'on a dans le binaire. Et du coup, on retrouve l'étroitesse du binaire. Mais je tiens à préciser que le binaire n'est pas du tout, pour moi, un ennemi. Et qu'en fait, ici, c'est un ternaire de binaire qui va apparaître. Et qu'au lieu de faire disparaître le binaire, on va en mettre trois ensemble. Un ternaire, ou une approche ternaire, ça c'est une autre condition pour moi, qui supprimerait ou qui viserait à supprimer le binaire, se tuerait elle-même. Le ternaire ne peut pas assassiner le binaire sans se tuer lui-même. Et là, on a une combinaison qui est quand même extrêmement intéressante puisque nous ne renions pas notre monde. Et c'est un fait qu'il faut pouvoir dire « je suis là ou je ne suis pas là ». Je ne vais pas dire bah, « comme le chat Schrödinger, bon, il y a une éventualité que je ne sois pas là ». Vous allez dire « le gars, il retourne en France rapidement, de toute façon c'est important ». Mais voilà, donc là il y a à ne pas se tromper sur les termes. Alors, à partir du moment où le partiel est à la fois ami et contradicteur du partiel, puisqu'il ne peut pas y avoir du tout partiel à cause du partiel, du tout auto-référence à cause de l'incomplétude, etc., il va y avoir un jeu qui va nous faire apparaître un certain nombre d'antagonismes. Et on se rapproche là d'une donnée de base dans notre vie de tous les jours qui est le dilemme. On n'est jamais à trouver la meilleure solution, on essaye de trouver la moins mauvaise, celle qui a les conséquences les moins graves et qui apporte les éléments positifs les plus intéressants. Je crois qu'on peut passer à la suivante. Alors, l'approche systémique, ternaire comme multiplication de l'information. C'est ça qui se produit. Donc là, on va aller... Voilà, c'est ça. On va aller vers... Et là, on va... Je suis conscient que c'est une torture. C'est presque... C'est affreux de présenter ça là. Je promets que ce n'est pas par manque de respect, c'est pas manque de temps. Mais il y a d'autres moments où on peut étudier ça de près. Donc on retrouve ici l'incomplétude, l'autoréférence, l'indétermination et les trois, ce qu'on appelle les attracteurs. Ici on appelle ça les invariants, il vaut mieux leur donner un nom, et ça on appelle ça les attracteurs. Les attracteurs, c'est quand la perception, objet sémantique qui se balade dans l'univers, se rapproche de cette planète incomplétude, il y a une inflexion sémantique qui se produit. Et elle va porter un autre nom qui est une virtualité de la perception. Ça sera le partiel. Pareil ici, le partiel, etc. Donc, si vous voulez, la perception se frottant à l'incomplétude, arrivant dans le champ gravitationnel de l'incomplétude, pour utiliser cette image, va changer de couleur sémantique et va prendre... Ce sera vrai pour tous les thèmes qu'on va choisir. La difficulté sera de trouver l'équivalent de partiel, partiel, parcellaire, parce que là, on est dans le général, appliqué à tous les thèmes que nous déciderons d'étudier. Quand je vous disais tout à l'heure, et je fonce évidemment bride abattue, qu'il y a à la fois singularité et
coextensivité et singularité, la singularité va provoquer un antagonisme, et je vais faire, je vais ici déterminer des termes qui sont le fruit d'un exercice où je vais croiser les influences réciproques, alors même que j'ai mis quelle est la complétude de la perception, je vais mettre le partiel, quelle est la référence, etc. Je vais recommencer avec ces termes-là à l'intérieur du schéma. Et je vais arriver à 6 termes qu'on appellera les agents. Les agents, c'est-à-dire que les agents sont le nom qu'on va donner au type d'influence de telle invariance sur tel terme. Et ici, vous n'êtes pas en présence de mots isolés, vous êtes en présence de fonctions. Vous avez ici la fonction attracteur, vous avez ici la fonction agent, et il y a d'autres fonctions qui vont apparaître. Quand on arrive ici, l'expérience, mais aussi la raison logique, quand on l'étudie de plus près, indique ici et là des complémentaires, et indique de part et d'autre de chaque fuseau des antagonismes. Ces antagonismes n'étant pas symétriques, tout à l'heure on a parlé de gradation, donc la gradation implique que l'antagoniste n'est pas symétrique, et un certain nombre d'auteurs, dont Jean-Jacques Wimmenberger, ont parlé de ça il y a déjà longtemps, on se retrouve devant des antagonistes qui ne sont pas évidents. Alors que blanc-noir, c'est évidemment antagoniste, les degrés de gris, par exemple, mais sont moins évidents à différencier. Donc on va les renommer et on va se retrouver topologiquement avec une plus grande clarté d'antagonisme que nous allons après renommer sous la fonction tiers incluant. L'idée ici, c'est que à partir de la perception, les différents dérivés, enfin les différentes attracteurs que nous avons nommés vont présenter ces antagonismes, mais ce qui est intéressant, c'est de détecter dans un thème ou dans une problématique qu'on étudie à la fois ces complémentaires, ces antagonismes et ces tiers incluants qui sont des passerelles par-dessus les dilemmes qui se posent à nous dans la vie de tous les jours. Et les passerelles par-dessus ces antagonismes sont les tiers incluants. Le tiers incluant indique une continuité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout a été logiquement tiré d'un exercice progressif, logique, comme on vient d'indiquer, à ce moment-là, on se retrouve dans un ensemble de mots, en fait c'est 18 pistes conceptuelles, qui sont toutes logiquement et reliées entre elles. Et les tiers incluants de contextualisation, d'expérimentation et d'ordonnancement vont nous donner les passerelles qui résolvent les contradictions de la perception. Ça ne les supprime pas, mais ça nous donne des pistes d'attention par rapport au dilemme que cela pose. Ce que j'ai dit là est probablement un bafouillis, un vraisemblage, je ne sais pas ce que vous pouvez retirer, mais on pourra tout à l'heure peut-être passer un petit peu de temps avec les questions-réponses pour expliciter tout cela. Mais d'une certaine manière, tout cela est né de questions de vie de tous les jours, et avec une telle approche, où là j'ai mis contrat, chantier du bâtiment, lunettes de perception, depuis 15 ans j'ai résolu mes problèmes d'entreprise. J'ai su, sur ces 18 pistes, à quoi faire attention et comment ne rien exclure. On peut dire que ici on a l'épistémologie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est constitutif d'une situation, et on peut dire qu'ici on a l'heuristique, c'est-à-dire ce qui ne va pas de soi, je veux dire, et qui va nous permettre
d'approcher une situation avec des éléments dont on n'avait pas conscience, auxquels on ne s'attendait pas. D'où l'idée de multiplication de l'information. Alors, on va passer au quatrième point, à quoi ça sert. Et si vous voulez, ce que je propose là, qui évidemment, pour le moment, je suis bien conscient, est à prendre comme ça, comme un paquet, et difficilement compréhensible dans son intimité, est en fait un exercice, un processus de structuration de la pensée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là en présence d'un outil qui va permettre de résoudre un problème sur le terrain. On est là, en amont, à indiquer ce qui se passe dans un processus de pensée attaché à tel ou tel thème. Il ne s'agit pas de dire ce qu'il faut penser, mais il s'agit de voir comment on peut logiquement intégrer le phénomène ternaire, l'approche ternaire, l'approche trialectique, en l'occurrence. Et la raison pour laquelle vous avez sans doute été bafoué par tous ces éléments, etc., c'est qu'au fond, là, le temps nécessaire à se cultiver en complexité de cette manière est dû au fait que qu'en fait, derrière tout cela se trouvent des notions de base qui sont triturées par des tas de personnes depuis des milliers d'années. Et pour en nommer quelques-unes, l'invariance gyroscopique, le tiers incluant, ça nous ramène à Aristote, l'antagonisme non symétrique, la relativité. La relativité d'Einstein est fondamentale dans cette affaire-là, bien qu'il n'y paraisse pas. La limite avec un grand L. Némésis était la déesse de la limite chez les Grecs. Pour que les Grecs aient une déesse qui s'appelait, qui représentait, qui symbolisait la limite, il fallait donc qu'ils aient pensé qu'elle était importante. La limite, nul ne sait ce que c'est. Et elle est confondue avec la frontière, alors que la frontière est le signe d'un échange de part et d'autre, même s'il est un échange guerrier, alors que la limite est dissymétrique. Il n'y a pas d'au-delà de limite, sinon ce n'est pas une limite. L'inconnaissabilité, on a parlé du centre du schéma, il y a un travail d'élucidation à faire autour de ça, bien plus loin que je ne l'ai fait. La continuité, ça c'est plutôt une notion quantique qui s'attache à la question du tiers incluant. La coextensivité, il s'agit là de la notion de champ. La topologie, qui je pense que vous êtes assez familière dans le domaine architectural. La courbure existentielle, là j'emprunte à Einstein, passer de l'infini linéaire à la courbure existentielle. J'en dis rien de plus parce que c'est simplement pas possible, mais... Alors, pour parler des conditions, parce que j'arrive doucement à la fin, rassurez-vous, au fond, la décontextualisation est absolument centrale. Quand je dis l'homme est un cas particulier de cette affaire-là, c'est dire que je décontextualise. Pourquoi ? Parce que quand un problème ou une problématique occupe l'entièreté de la vie, on est foutu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'information. L'information, c'est de dire, eh bien, ma vie, je suis plus grand. Le contour de ce que je suis est plus grand que toute problématique que je traite. Et c'est souvent très difficile. Si on divorce, si on a un ennemi, si quelque chose, pour toute raison, vous envahit entièrement, alors on est mal. Et la faculté de décontextualiser, et de s'apercevoir que sa vie est plus large, son existant est plus large que toute problématique, le différentiel entre les deux est un apport d'information. Et là, c'est vraiment ce que permet l'approche ternaire. Le traitement des dilemmes, la régulation entre l'hyper et l'hypo. Moi, j'ai eu des gros problèmes d'entreprise jusqu'à il y a 15 ans, parce qu'il y avait des choses que je devais rejeter, des choses que je devais inclure, mais parce que j'attachais trop d'importance à ceci et pas assez d'importance à cela. Donc, quelle est cette régulation ? De quoi procède-t-elle ? Et puis tout n'est pas l'un ou tout n'est pas l'autre. Einstein dit la relativité générale, c'est pas de la physique, c'est d'abord de la psychologie. Il a écrit ça en toutes lettres. Regardez, dans le, il a deux livres, notamment Comment je vois le monde, et l'autre c'est la relativité. Et je trouve ça fabuleux, parce que c'est une de mes passions un jour d'écrire sur la théorie sociale de la relativité. Parce que, au fond, c'est d'abord pour moi, ce génie, c'est d'abord pour moi une théorie sociale, avant d'être une théorie physique. Et enfin, c'est une proposition d'autonomie. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oh là là, il présente tout ça, on va être complètement pieds et poings liés, si jamais on étudie ça, puis qu'on se confine là-dedans, on va être dépendant de l'hiérarchie. J'ai pas de crainte, vous êtes pas fou, vous n'êtes pas... Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Mon professeur ou directeur, qui est devenu un ami de master, m'a dit, tu sais, quand je lui ai présenté ça, ce qui était déjà en germe dans mon mémoire, il m'a dit, écoute, là, je suis tranquille. C'est trop complexe, il y a trop de choses qui bougent pour que tu imposes ton goût. Et de fait, si on pense au football, bien, le football a été inventé par des Anglais. Je suis français, les Anglais, je les aime beaucoup, hein, j'adore leur langue et tout, enfin, j'ai beaucoup passé de temps, on passe encore. Mais, merde, enfin, les Anglais, bon, on est nous et on a d'aussi bonnes idées. Je dis nous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas anglais. Mais ils ont inventé le football. Maintenant, il y a la Coupe du Monde. Et il va y avoir la Belgique qui va gagner, bien sûr, puisque maintenant, elle est dans le coup. Nous, je ne sais pas, c'est pas encore dit, hein, parce que nous, c'est la France. C'est plutôt comme ça, puis de temps en temps, hop, et puis on... Donc pour le moment, on va voir. Mais je serais très content si la Belgique gagne. En plus du prix Nobel récent. Je touche de près parce que c'est un travail qui a été, sur le boson de Higgs, qui a été fait par une vaste équipe, dont un des coéquipiers fait partie de notre équipe trialytique. Et donc, je vais à la fin du mois visiter CERN, qui va me montrer. Il a fait une thèse là-dessus. Donc c'est... J'étais vraiment... j'ai vécu la chose de l'intérieur et je me félicite pour ce prix Nobel, même si j'ai aucune autorité pour me féliciter. Alors, le football, je termine par là. Le football, quand l'Argentine ou bientôt peut-être la Belgique, etc., gagne la Coupe du Monde, eh bien, on ne dit pas on a gagné un jeu anglais. Et pourquoi ? Mais parce que il y a eu des règles, inventées également par les Anglais, mais que nous observons avec rigueur, ce qui permet à l'échelle du monde d'avoir des arbitres internationaux, ce qui permet d'avoir une reconnaissance internationale de la qualité du jeu national, et quand l'Argentine, le Brésil ou un autre pays gagne, ils disent... le football brésilien, le football argentin, alors que tout a été inventé par les Anglais. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, et les règles sont observées avec rigueur. Et ceci libère l'entité en question de son origine, et devient complètement la propriété de celui qui sait la manier. Et là, c'est exactement la même chose. Si nous avons l'occasion un jour d'aller plus loin dans la mécanique de cette affaire-là, qui en fait, là c'est ébouriffant, mais en fait c'est clair, c'est très logique, mais complexe, je reconnais, mais difficile, essentiellement parce qu'il est difficile de désapprendre toute son idéologie, toutes les idées qu'on a à l'avance, il faut les désapprendre, pas les détruire, les apprendre. Et ça c'est la grande difficulté, c'est pas une difficulté intellectuelle, c'est une difficulté d'abandon provisoire de ce qu'on croit à l'avance être ceci ou cela. Eh bien, quand on apprend à observer, c'est l'essentiel de la formation à la trilectique, à appliquer la rigueur des règles par rapport à ce foisonnement, hein, de notions de base, eh bien, on est complètement autonome et libre de traiter avec son génie propre, comme le football et chaque pays, avec son génie propre, chaque thème, et chacun le traitera à sa manière, mais on verra une convergence au niveau des tiers incluants quant à la cohérence par-dessus les dilemmes que comporte le thème à son point de départ. Jacques Mahat.
Ah ouais, oui.
Claude va
voilà.
S'occuper des questions.
Occupe des questions. Qui a des questions à poser?
Est-ce qu'on peut remettre le schéma?
Lequel, le précédent? Il y en avait d'autres. Gérard s'est arrêté, mais on a dit qu'il y en avait d'autres après.
Ah ben oui. Ah pardon. Bah ça, oui, ça va pas être long, puis c'est plutôt...
En ce que tu veux.
Oui, on va... Oui, excuse-moi, j'ai complètement... comment ça se fait, d'ailleurs? Ah oui, d'accord. Bon.
L'incomplétude.
Oui. Bah là, dans ce cas-là, c'est plutôt l'inachevé. Hein. ici... c'est juste pour vous montrer une série d'autres petits... schéma, enfin, qui en titrise. Dans le livre qui va paraître, je vous laisse voir certains trucs de manière inédite, le référentiel généralisé. Comment situer une chose, qu'elle soit de l'ordre de la matière ou de l'ordre de la pensée. On est déjà là un peu dans la présentation dans le séminaire. Domaine de validité, champ d'intelligibilité, degré de résolution. Et ça, c'est directement lié à au partiel, au partial et au parcellaire. Ça implique un domaine de validité, un champ d'intelligibilité, un degré de résolution. Si on est sur l'un ou l'autre, on ne peut pas situer l'objet, dans le sens large du terme. Et ça nous donne à la fin information, localisation, extension. La relativité générale, espace-temps, énergie, matière. Si on fait ce travail de ce point de vue-là, alors il faudrait expliquer pourquoi l'espace-temps est dans l'incomplétude. Mais c'est elle qui provoque, pourquoi est-ce que moi j'ai dû prendre le TGV et le train pour venir ici? C'est pas normal, je veux dire, c'est pas à prendre pour acquis. Parce qu'il y a un espace-temps. Bon, alors, espace-temps, énergie-matière, on a transformation, échange, organisation. Et le maître mot, enfin, qui réunit les trois, c'est la conservation. L'humain, c'est Edgar Morin, dans un de ses livres. Il dit l'humain, c'est l'espèce, l'individu et la société. Alors, je me jette dessus et je me dis, tiens, c'est parce que lui, il est vraiment Morin dans le ternaire et la trilectique. C'est vraiment, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il nous lance, enfin, qu'il préface notre prochain livre. Et donc, on a pris espèce, individu, société. Et cette combinatoire nous amène, et c'est pas quelque chose. On dit un mot, on prendra un autre, c'est nous qui décidons. Non. Les règles sont tellement rigoureuses que, alors même qu'on peut mettre des mots différents, d'autres mots, ils doivent répondre, rendre compte d'une relation, d'un frottement entre ceci et cela, entre ceci et cela, etc., dont on n'a pas parlé. Et on arrive à l'associatif, au politique, au religieux. Et ce n'est pas parce qu'on voulait arriver à ça. Ensuite, l'organisation. Pour ceux qui connaissent Gyros, le gyroscope, avec André Piek, nous connaissons, on a passé du temps à étudier les choses ensemble, à faire des échanges à ce niveau avec les principes directeurs du gyroscope. Et moi, avant qu'elle arrive, les jours précédents, j'ai passé une journée à étudier le gyroscope et je suis arrivé avec les 12 principes directeurs. Selon un cheminement que on n'a pas le temps de voir ce soir, à ceci, écologie, téléologie, ingénierie. C'est-à-dire que tout l'ensemble de son dispositif nous amène à l'organisation. Et là, j'ai senti que bon, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Contingentement, réactivité, programmation. Tout cela, quand on est dans une entreprise, dans une telle ou telle situation, on va pouvoir, il y a 18 pistes conceptuelles, 18 termes, qui sont toutes des fonctions, on va pouvoir mettre tout ceci en synergie, éventuellement avec d'autres d'autres schémas qui vont compléter, qui vont apporter une autre nuance selon les besoins, et on va pouvoir gérer une situation de management, puisqu'il s'agit d'un livre sur le management, ou éducatif ou scientifique, en ayant repéré les points d'attention importants, et attention sans atrophie, sans hypertrophie, sans atrophie. Ensuite, l'entreprise, la circonstance, le projet, le conseil. Inutilité, vous voyez, l'incomplétude de l'entreprise. Alors, donc, affirmation, accommodation, assimilation. Et là, on retrouve Piaget. Donc, on est instruit par cet exercice, pourvu qu'évidemment, on le fasse avec rigueur. Ensuite, le management. Dispositif, savoir, relation. Alors là, Jean-Pierre Bréchet, avec lequel je travaille, est un professeur de l'Université de Nantes, qui est une haute autorité en domaine du management. Il est impliqué dans les entreprises, il donne des cours, il a travaillé toute la France. Et ça a été extrêmement intéressant. Il m'a demandé l'apport trialectique. Moi, il a fait cet apport, son expérience. Nous avons travaillé depuis 3 ans ensemble, avec ce livre qui va sortir, co-signé. Et c'est extrêmement instructif pour moi de mieux comprendre mon entreprise, les questions du management dans ce travail collaboratif. Dispositif, savoir, relation, finalisation, coopération, coordination. Évaluation, maître mot, évidemment, évaluation. Quand je porte ma fourchette à ma bouche pour manger un délicieux plat belge, eh bien, j'évalue, quoi. Sinon, je me mets dans l'œil. Mais évidemment, je ne m'en rends pas compte, sauf si un jour je suis atteint de Parkinson ou s'il y a un truc qui ne va pas. Et à ce moment-là, je ne vais pas savoir où est ma bouche. Donc il y a une évaluation. Quand je traverse la route, pareil, tout est d'évaluation. Et donc ça ramène au référentiel général qu'on a vu en premier, hein, domaine de validité, champ d'intelligibilité, degré de résolution. Donc mesure, valorisation, validation, consultation, contrôle, agrément. Encore un ? La peur. Ah oui, alors la peur, ça c'est mon bébé. Et moi je suis quelqu'un de peureux. Et je me réconforte en me disant que la peur est la condition du courage. On ne peut pas être courageux sans être peureux, donc voilà, ça va mieux. Mais quand même, j'ai des expériences très très concrètes à ce niveau-là. Et mon problème principal, c'est que la peur, on ne la connaît pas. Elle est sournoise, elle est incognito et elle est cancéreuse. C'est-à-dire qu'elle prête son patrimoine, elle apporte son patrimoine à la place de celui de nos cellules, et après on croit décider dans la raison, alors qu'en fait elle est mauvaise conseillère. Alors j'ai dû travailler cette affaire-là, et pour des raisons extrêmement sérieuses, je peux vous le dire, dans des circonstances limites. Donc je me suis dit, la peur est existentielle, elle est psychologique, elle est cérébrale. Peur du choix, etc. Et viabilité, jugement, capacité. Cet ensemble-là m'a beaucoup éclairé sur comment la peur opérait en moi. Mais si vous le faites, vous aurez un autre point de vue sur la peur. Mais il y aura une cohérence et nous pourrons parler ensemble. La corporalité, les gens disent « Tu es dans le bâtiment, tu manies ta truelle, comment est-ce que tu écris les bouquins aussi ?» Mais comment pourrais-je ne pas faire les deux en même temps ? Avant, c'était absolument naturel. On était philosophe, on était architecte. Et je me suis dit, mais quelle question ? Ce sont des clients qui m'ont emmené à l'université en disant, mais la manière dont vous y prenez pour construire la baraque, concevoir le truc, etc., c'est conceptuel, conceptualisé, donc il faut absolument mettre ça sur le papier, etc. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai été poussé, alors que, après mes résultats atroces pendant ma scolarité, je ne voulais pas recommencer à prendre ce risque. Et finalement, je l'ai fait à 55 ans, il y a 8 ans, et je me suis dit, mais la corporalité, elle est intellectuelle et manuelle. Et le plaisir de vivre, il est dans l'équilibre à la fois antagoniste et symbiotique des deux. Biologique, émotive, intellectuel. Schéma corporel, intelligence, adaptabilité. C'est moi qui le fais, encore une fois. Vous le feriez autrement, mais avec les mêmes règles. La régulation, alors là, la régulation, c'est évidemment aussi un autre maître mot, comme l'évaluation. Sans régulation, je ne reste pas à 37 degrés. Et donc, il y a eu des problèmes. Donc, tout est régulation et vie et survie n'ont pas vraiment de frontières. Enfin, c'est pas évident de la trouver. Et la régulation est un thème vraiment fondamental. Usure, maîtrise, paramétrage. Ces mots, encore une fois, ne viennent pas par hasard, n'importe comment. Ils sont le fruit d'une recherche. Un schéma comme ça, c'est une semaine de travail. Et encore, après, on continue à le modifier. Jusqu'à ce qu'on désapprenne suffisamment tout ce qu'on croit savoir du thème pour respecter la règle. Travail, prescription, adaptation. Le dispositif, cher à Jean-Pierre Bréchet, là, c'est pratique, prescription, mécanisme. Tiers incluant, flexibilité, systématisation, adaptation. Le dispositif est donc au cœur du management, bien sûr. C'est tout. Bon, c'était juste des petits exemples. On en a fait 300, à peu près, jusqu'à présent. Ça fait quelques années de travail.
J'avais une question, Gérard, justement, concernant l'évolution, tu viens d'en parler. L'évolution des schémas, quelle que soit la thématique abordée. Hein, j'entends que chaque thématique évolue, mais peut arriver à un moment, après un certain temps, à quelque chose de plus ou moins accompli. Enfin, satisfaisant, je veux dire, pas complet, mais satisfaisant. Et donc, comment, en intégrant cette dimension du temps, justement, comment, quand tu reprends ton schéma trialectique après quelques temps, comment se modifie-t-il éventuellement ? Est-ce que, je veux dire, est-ce qu'il est définitif quelque part ou est-ce que c'est une photographie à un moment donné, et puis on peut, dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes, se retrouver avec quelque chose qui a complètement été transformé ?
Bon, après c'est ça. Là, je précise une petite chose, c'est que l'exercice de la mécanique de cet exercice se prête aussi bien au travail individuel qu'au travail collectif. Donc, en séminaire, on a un cycle. Le premier, on l'appelle l'acquisition. Le deuxième, l'accoutumance. Et le troisième, l'appropriation. C'est les 3A inventés avant d'entendre toutes ces agences d'annotation qui parlaient des 3A, etc. Je tiens à le préciser, on a quand même de l'originalité. Bon. Donc, le troisième séminaire, qui est l'appropriation, chacun a le droit de venir avec son thème. Si possible, travailler un petit peu avant. Et certaines personnes ont fait le séminaire ici, d'ailleurs. C'est très intéressant parce que nous avons donc des schémas qui ont été faits seuls et d'autres schémas qui ont été faits en groupe. Les schémas que nous travaillons en groupe sont extrêmement intéressants parce que on passe son temps à essayer de trouver un accord intersubjectif sur l'acception des mots. Et souvent, on part d'un schéma comme celui-là que j'ai fait et on l'oublie parce qu'il faut travailler avec des œillères. On parle de relations de relations, mais il faut surtout travailler avec des œillères. Quand on est dans une partie du schéma, on n'est pas dans l'autre et on oublie les résultats précédents. Hein. Comme le tennis, on a gagné un set, il faut l'oublier, sinon on perd les autres. Eh bien, souvent, le groupe, d'abord, trouve des erreurs dans mon schéma et ensuite aboutit à quelque chose de complètement différent. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que quand je dis une erreur, et moi-même quand je dirais là vous avez fait une erreur, c'est pas parce que la personne ne me plaît pas le mot qu'elle a mis, c'est parce que la fonction n'aura pas été respectée. Par exemple, ici, je ne dis que ça, hein, mais par exemple, ce mot-là dépend de la question suivante. Comment je vais nommer l'effet de l'incomplétude sur la prescription ? l'incomplétude de la prescription, qui n'est ni un contre-pouvoir, ni le contraire. L'incomplétude, c'est encore autre chose. D'où la grande difficulté à le concevoir. Et on va mettre je vais mettre application. Discutable. Mais, et s'il y a une erreur, ce sera une erreur dans le processus, la manière dont j'ai appliqué le processus. Le mot application, pourquoi pas? Mais il peut être une erreur. Bon, en l'occurrence, on l'a vérifié, contre-vérifié. Alors, c'est vrai qu'au fil des mois ou même des années, moi j'ai découvert des erreurs, même des erreurs assez graves quelquefois. Et il y a quand même un moment donné où ça se stabilise. C'est-à-dire que force de s'entraîner, de travailler de cette manière, on va avoir un respect de la fonction en fonction des règles, par rapport aux règles, qui va perdurer. Et on pourra dire, par exemple, la perception, je dirais qu'il est stabilisé. C'est un des premiers que j'ai fait. Il a été corrigé, un peu, etc. Et depuis plusieurs années, il ne bouge pas. C'est-à-dire que quand on le fait en séminaire, il y a une personne qui dit, bon là, il y a un truc, etc. Et donc, c'est un travail d'affinement, et c'est un peu comme la détermination. C'est-à-dire, c'est moi qui... je fais le schéma en fonction de ma capacité d'aujourd'hui. Et je vais peu à peu... Mais il est certain que, même moi, si je fais un schéma sur dispositif, si je refais ce schéma sur dispositif, je vais obtenir autre chose. En oubliant ce que j'ai fait, je vais obtenir autre chose. Mais cette autre chose sera le reflet de mon état au moment où je le fais, puisque c'est autoréférentiel. Par contre, ce qu'il faudra regarder, c'est si, entre mon premier schéma et mon deuxième, il y a cohérence par rapport au tiers inclure. S'il n'y a pas cohérence, il y a une erreur quelque part. Parce que la règle, elle, est cohérente. Ou en tout cas, il faut évidemment le supposer, autrement on s'arrête de faire quoi que ce soit. Et ça sera pareil avec le groupe. Donc, moi, quand quelqu'un dans le groupe me signale une erreur, je suis ravi. Ça veut dire que okay, ça a été compris, que la trialectique a été comprise. Et quand il y a d'autres trialectiques qui ne remettent pas en cause ce que j'ai fait, mais qui montrent d'autres sensibilités, d'autres manières... À ce moment-là, c'est merveilleux. Parce qu'il est certain que quelqu'un qui est sociologue, qui est éducateur de rue, ne va pas traiter du même thème, comme la régulation, par exemple, ou l'évaluation, de la même manière que notre ami qui a trouvé le boson de Higgs, qui, lui, est ingénieur, grosse tête, etc., bon, qui est humain, évidemment, mais qui, lui, va penser les choses d'un autre angle. Mais ce sera deux apports complémentaires, sachant qu'il y en a une infinité. Et c'est là où on a une personnalisation de la chose, où il n'y a pas d'imitation. Et ce que je tiens à préciser, la différence entre une tripolarité, où on va dire faire un inventaire de trois choses en les définissant, et une trialectique, qui est une relation de relation. Chose difficile à comprendre pour moi, relation, mais elle entre en jeu au moment où on fait l'exercice. C'est cet entraînement-là qui est important. Et ça, c'est éminemment personnel. Donc, on n'est pas dans une modélisation où on dira, tiens, il y a la modélisation, il y a des modèles qui sont très connus, et puis, donc il y aurait modélisation gigante. Alors par rapport à ça, voilà, non, la personne doit faire le travail à partir de règles, comme les règles du football anglais, les règles anglaises du football. Mais personne, on n'y pense même pas. C'est ma modélisation. C'est moi qui l'ai faite. Elle est unique. Elle est auto-référentielle.
Oui, Pierre. Moi, je voudrais poser une question. Déjà, j'entends bien qu'arriver à faire ce schéma, c'est tout un travail, toute une réflexion. Ma question est peut-être reprendre... le schéma du management, par exemple, de dire, bon, j'ai le schéma du management, comment je continue ma vie? Dans quelle mesure je vais gérer autrement, je vais conduire autrement le management? Est-ce que vous n'avez pas un exemple d'une situation de management qui a été éclairée par ce schéma, ou qui a été changée par le schéma? Un problème de management qui a été résolu grâce à ça.
Bah oui. L'exemple qui m'a le plus frappé, c'est le mien, quoi. C'est-à-dire, c'est celui dont je peux parler le plus clairement, qui est le premier schéma que j'ai fait par la perception, tout premier, c'était il y a 15 ans. Mon entreprise coulait, d'ailleurs dans le deuxième livre, là, je commence par là, mon entreprise coulait, mais vraiment coulait, hein. C'était catastrophique, avec des prud'hommes, avec 500 000 francs à l'époque de découvert la banque, avec, vraiment ça allait mal, les banquiers commençaient à s'intéresser à ma baraque et tout, bon. Et les uns me disaient, mais t'es pas assez pur et dur, le marché, etc. Les autres disaient, mais attends, faut tenir compte des gens, c'est ça qui compte, c'est parce que tu... Donc j'ai essayé chaque chose et je coulais de plus en plus. J'ai été voir des tas de gens qui m'ont donné des tas de conseils. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, demain, je n'existe plus. Donc là, ce soir, il faut vraiment que je fasse le coup. Et quelque chose de ma vie antérieure, enfin ma vie antérieure, des années précédentes de ma vie, parce que vie antérieure, il y a peut-être eu une, mais au moment, c'est comme c'est comme la connaissabilité, c'est pas très accessible. Et alors... je me suis dit, mais et si c'était les deux? Et après, je me suis dit, et si c'était les trois? Et si il y avait un équilibre ternaire dans tout ça? Mais c'était très intuitif, parce que j'avais pas conceptualisé et, quel est le mot, mis en forme, modélisé. Il n'y avait pas modélisé du tout, c'était de l'intuition... avec le feu aux fesses, hein, donc vraiment, le lendemain, c'était bon, où est le fric, quoi. Et c'est très désagréable, ça. Seule la faculté masculine de tirer un rideau le soir m'a permis de dormir. Hein. C'était vraiment... Et alors, je me suis dit, mais au fond, c'est un chantier réussi, c'est quoi? C'est la combinaison ternaire, ni hypertrophié ni atrophié, de trois éléments qui sont le rêve, la technique et l'argent. Il faut tenir compte du rêve de client, il faut intégrer la donne financière et il faut utiliser la technique appropriée. Comment est-ce que cela entre en relation? Et j'ai fait une trialectique qui m'a donné un ensemble de pistes, 18 pistes, qui étaient toutes les pistes que je devais observer pour pouvoir entrer dans un fonctionnement harmonieux qui tienne compte de tous les éléments du fonctionnement d'une entreprise. Et on voyait bien qu'il y avait, le client, évidemment, mais avec... Il y avait les finances, mais ce n'était pas évident. Les finances, c'est quoi? C'est moi qui gagne ma vie. C'est aussi le client qui dépense le moins possible. C'est aussi une dépense qui s'échelonne. On a plus d'argent quand on peut échelonner, mais c'est aussi une technique qui coûte plus ou moins cher. C'est aussi une technique qui donne des résultats qui sont probants et qui permettent d'être payés. Enfin, un imbroglio. Donc, je me suis dit, je suis incapable de marier dans ma tête ces trois éléments. Donc, comment ça se passe? Et j'avais besoin d'arriver à des tiers incluants qui m'indiquent les passerelles par-dessus les dilemmes, les passerelles par-dessus les contradictions apparemment, qu'on ne pouvait apparemment pas résoudre. Et un des effets assez extraordinaires, c'est que depuis 15 ans, du jour au lendemain, j'ai cessé d'avoir des impayés. Alors même qu'on aurait pensé que les impayés sont dus à la malhonnêteté des clients quand ce n'est pas dû à une malfaçon de sa part. Donc j'étais responsable de la malhonnêteté de mes clients. Entre autres... apprentissage. Et là, je suis encore dans cette situation, bien que je vais bientôt arrêter, parce que ceci me prend en plein temps. Et que, voilà. Pour le reste, faudrait entrer dans le truc. Ce soir, c'est un peu difficile, mais je peux témoigner de cela. Et depuis, c'est un cercle vertueux, alors qu'avant, c'était un cercle vicieux. Mais la vitesse à laquelle j'en suis sorti n'est pas le fait de mes qualités. Hein, c'est clair, ça a été trop vite.
Merci. Tout d'abord, merci Gérard pour cette présentation qui donne à penser, donc, hein, comme on dirait. Alors, j'ai deux petites questions autour du 3. Est-ce que dans tes nombreuses investigations, tu as déjà pu trouver au niveau historique, parce que ça me fait penser un peu à l'anthropologie classique,
biblique et autres.
Quand est-ce que c'est fait, quand est-ce qu'a eu lieu ce glissement binaire dans l'histoire? Ça, c'est, enfin, peut-être qu'il y a des choses là-dessus, je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça. Je me dis, tiens, comment se fait-il que l'être humain a oublié qu'il était tripartite au moins? Mais la deuxième chose est peut-être plus directement attenante au propos ici. C'est assez intéressant l'expression tiers incluant. Est-ce que, parce qu'on aurait tendance à penser à appliquer un peu rapidement, à passer du tiers exclu au tiers inclus. Il y a des auteurs qui parlent comme ça. Et le tiers incluant, ça me semble très positif et en même temps très porteur, très éclairant. Est-ce qu'il y a moyen d'en dire un peu plus? Peut-être aussi, dernière petite remarque, toujours dans la même foulée, peut-être essayer de, un peu dans le sens de ce que Pierre vient de donner, comment faire jouer ces trois tiers incluants entre eux? Donc tu as dit qu'ils étaient un peu un signe de la continuité. Ils avaient une fonction de continuité. Voilà. Une question historique. Oui, moi, je ça va. Pierre dit qu'il va faire la deuxième conférence.
Je dis que pour.
Moi, je peux m'occuper du.
Je pense qu'il y a des choses là-dessus. Mais... Ça me frappe parce que tu as évoqué Aristote. Ouais. Bon, je crois que traditionnellement, on dit que Platon, c'est la pensée binaire, en gros. Mais auparavant, je ne pense pas que la pensée occidentale, enfin, la pensée était binaire. Je crois que. Pensée biblique, elle est, je ne sais pas si elle est ternaire, en tout cas, elle est.
Elle est trinitaire.
Voilà.
Que,
je ne sais pas. Hein.
Bon, moi, je ne suis pas un érudit de cette question. Pour Aristote, puisqu'on attribue à Aristote le tiers exclu, donc c'est sa fameuse. D'ailleurs, c'est par trois. C'est A et A. A n'est pas non A, et il n'y a pas de terme. Tiers qui soit à la fois A et non A. Donc il a énoncé ça, et à partir de là, on a enfourché tout ça, cette approche, et ce qui nous a permis de développer des tas de choses et des problèmes aussi. Donc moi, je situe cela autour d'Aristote, parce qu'il est quand même le premier des Grecs à ne pas avoir commencé ses études en Inde, donc c'est vraiment celui qui a démarré la philosophie. Enfin, tant c'est plus que moi tout ça. Hein, mais enfin, donc je parle. Il est le premier à avoir lancé la philosophie européenne. Et alors que Platon et Socrate sont allés en Inde d'abord, donc la question de la non-dualité est née avec Aristote. Donc on a là une identité européenne qui est née. Et qui nous a amenés jusqu'aujourd'hui, puisqu'on y fait référence. Et c'est vrai que nous, ça nous touche particulièrement, en particulier ce soir par rapport à ça, puisque on est en pleine contradiction. Enfin, je veux dire, on est en train de dire non, 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 il n'y a pas. Il y a un tiers incluant, il y a. Il ne s'agit pas de dire. En fait, nous avons, pour être honnête, enfin, je veux dire, jusqu'à récemment, dit le tiers inclus. Parce qu'effectivement, un certain nombre d'auteurs utilisent le tiers inclus comme expression. Et jusqu'au moment où, et c'est d'ailleurs grâce à toi, Claude, on était un petit peu gêné par rapport à ça, sans trop savoir pourquoi. Puis à un moment donné, on a dit, mais attends. Il faudrait peut-être s'attaquer à ça. C'est que, en fait, et c'est là où c'est incroyable, les cinémas qu'on se fait, ou les non-remises en question. Le contraire du tiers exclu, c'est le tiers inclus. Non ? C'est le tiers incluant. Et c'est extraordinaire, comme la Lune. On voit toujours la même face, elle ne tourne pas sur elle-même. Et il est certain que, quand on parle ici de... la coopération, par exemple, comme tiers incluant de la compatibilité de la possession, on n'est pas dans le tiers inclus. C'est le tiers qui inclut. Donc, il est incluant. Donc, c'est un exemple, si vous voulez, encore récent, de modifications que nous apportons pour être toujours plus précis, rigoureux, sur le cheminement de cet outil. Alors, maintenant, pour faire un commentaire sur la continuité, ce tiers inclus, alors là on rentre un peu dans les choses, la définition des éléments, mais le tiers inclus en n'est pas un. Excusez-moi, c'est un âne quelquefois qui. Mais le tiers incluant n'est pas un rabibocheur, ce n'est pas un médiateur au même niveau. Donc je ne pensais pas le dire ce soir parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut dire pour préciser les choses, mais. Ce n'est pas un agent qui va se mettre entre les deux, qui va dire, mais écoutez, vous vous ressemblez plus que vous ne pensez, donc on met un petit peu de ceci, un petit peu de cela, on fait un compromis. Et il y a d'ailleurs, dans un illustre diaporama créé par Claude, des exemples imagés, disons, de cette affaire-là. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de chercher ce qu'on appelle en physique une continuité. C'est-à-dire que si, à un certain niveau, les choses sont incompatibles, à un autre niveau, en ajoutant une dimension, donc une information, il va y avoir un terme englobant qui va assurer, qui va mettre en valeur la continuité entre deux termes qui, sinon, sont incompatibles, sont des dilemmes, sont ce qu'on veut. L'image qu'on utilise souvent, c'est celle du cylindre, puisque le cercle et le rectangle sont incompatibles, mais quand on passe à une dimension supplémentaire avec la hauteur, on se retrouve dans un cylindre où de face c'est un cercle, de côté c'est un rectangle. C'est une image. Bon. Mais ça donne un peu l'idée de ce que c'est qu'un tiers incluant qui ne cherche pas à être un cercle ou un rectangle, mais qui comporte les deux éléments en lui et qui pourtant est encore autre chose. Voilà. Cet exercice-là est appliqué à nos situations humaines quand on arrive à ce stade de l'exercice et particulièrement difficile, qu'est-ce qu'on a du mal, mais très très décoinçant, enfin je veux dire très c'est un vrai décapant, voilà, c'est un vrai décapant parce qu'on est obligé de se rendre compte de toutes les habitudes qui font qu'à chaque fois on cherche un rabibocheur et non pas un tiers incluant qui assure une continuité, voilà, entre deux termes apparemment incompatibles.
Oui. Ça relève de quoi, enfin, votre fascination pour le tri alectique ou autre, pourquoi pas tétralectique ou pas dalectique ou je ne sais quoi.
Dodé.
Oui, enfin, on veut dodé, on en a vu, hein. J'ai aussi parcouru le. Le gyroscope, là, oui, donc voilà. On a un peu l'impression que c'est. Omnivalent, enfin, qu'on peut tout faire avec ça, que ça peut résoudre tout.
Y a incomplétude dans tout.
Le domaine.
Il y a incomplétude dans tout, donc ça ne peut pas résoudre tout. Et c'est surtout autoréférentiel, c'est soi-même qui va explorer. Cela dit, du 1 au 2, on passe du tout au multiple, à l'hétérogène. Là, le problème pour nous, dans notre société, il n'est pas passé du 3 au 4, ou du 4 au 5, il est de passer du 2 au 3. La problématique à laquelle je me suis attaqué, c'est celle-là. C'est comment combiner des binaires sans détruire les binaires, dont je reconnais l'utilité opérationnelle. Donc je vais m'attacher à ce créneau qui est la combinaison du 2 et du 3, que je trouve bien plus difficile que la combinaison du 4 et du 5. Il y a là un passage, un palier qualitatif, qui est finalement le gros obstacle pour la plupart des chercheurs. Donc du 2 au 3 est vraiment l'enjeu principal, je dis, contredit, mais est pour moi l'enjeu principal. Et combiner le 2 et le 3, c'est très difficile. Parce que quand on arrive au 3, souvent on a abandonné le 2.
Pas peine, voilà.
Eh oui. Donc c'est comment, structurellement, avoir du 2 dans le 3. Et ma proposition, c'est un ternaire de 2. Un ternaire de 2. Et un ternaire de 2 dans un référentiel où figurent des invariants, notamment celui de l'incomplétude, qui laisse toujours une case vide. Donc automatiquement, il y a du mouvement. Il faudra toujours remplir une case. Et on ne dira pas « Ah, oh, quel dommage que nous sommes dans la finitude !» Et c'est cela même qui nous permet d'être à mon corps, de m'arrêter quelque part, au vôtre de commencer quelque part, et avec la séparabilité combinée à la continuité, nous avons une relation. Donc c'est ces phénomènes-là et ces données-là que nous approfondissons quand nous faisons la trialectique. Très souvent, on est aussi tout le temps entre chercher des termes, puis après s'arrêter en disant « Ah, rigidité, rigueur, est-ce que c'est la même chose ?» Ben non, c'est pas ça. Donc, et on, à la fin d'un exercice, on connaît sa langue beaucoup mieux. Le but n'est pas d'apprendre sa langue, il est d'exploiter à fond les nuances sémantiques. Et elles sont très importantes pour tout le monde. Celui qui couche sous les ponts, le petit enfant, est incroyablement sensible à ça. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Donc tout le monde est concerné par la capacité de dire exactement ce qu'il ressent. Et la prison de l'incapacité de s'exprimer est intolérable, très très difficile. C'est une des choses que j'ai remarqué. Nous avons une association qui accueille des personnes en difficulté, et ça ne sort pas. C'est alors que la personne est intelligente et tout. Donc, et il ne s'agit pas d'apprendre la langue. Et là, je parle le français qui parle le français. Il ne s'agit pas d'apprendre une langue étrangère. Donc, s'il n'y avait que cet avantage de travailler les nuances et ce que veut dire un mot, partiel, partiel, parcellaire, déjà ça. Ils existent tous les trois, donc il y a bien une raison. Et pourtant, faire la différence entre les trois, comment voulez-vous sans un référentiel général qui soit un complément de référence, ou bien domaine de validité, champ d'intelligibilité, degré de résolution. Donc, tout est là.
Ah, pour une question.
Un commentaire que je ferai là-dessus, c'est plutôt au niveau de la représentation. C'est-à-dire que, au fond, ce que j'aime beaucoup chez les bouddhistes, bon, puisqu'on parle de l'Orient, c'est l'avacuité, la perception de l'avacuité, qui n'est pas l'illusion. Et l'avacuité, c'est dire tout, pour moi, je le traduis comme tout est accessible par la réalité phénoménologique, c'est-à-dire la représentation phénoménologique, et non pas un absolu d'objectivité. La vacuité, c'est ça. C'est-à-dire que les bouddhistes disent les choses ne sont pas à elles-mêmes leur propre cause. C'est une autre manière de dire la même chose. Elles ne sont pas à elles-mêmes leur propre cause. Elles sont donc le fruit d'une représentation, puisqu'elles me sont accessibles, et puisque c'est moi qui en rends compte, alors elles sont toutes reliées entre elles, puisqu'elles sont reliées à moi. Donc il y a un phénomène réticulaire. C'est nécessairement un réseau. C'est nécessairement systémique. Mais à condition qu'on ne dise pas, il n'y a pas vacuité, il y a accès à une réalité indépendante de soi, ce qui est complètement incohérent. Et le problème, c'est cette impression d'insécurité à partir du moment où tout serait représentation et tout serait accessible par la représentation. Mais, au fond, c'est l'inverse. Le fait que tout est accessible par la représentation fait que toutes les représentations sont importantes. Nous avons deux fils, ma femme et moi. Je n'ai d'eux qu'une représentation. Mais qu'est-ce qu'elle est importante ? Mais je n'ai de moi-même qu'une représentation. Et c'est pour ça que cet exercice est basé sur est une théorie de l'instabilité et un schéma, une trialectique du manque. Et l'illusion, c'est de penser que si c'était une trialectique de l'atout, ça serait plus solide. Mais c'est impossible. C'est quoi l'atout ? C'est quoi la solidité ? C'est quoi la fixité de l'objet ? L'atout, c'est l'invariance de l'événement, et non pas la fixité de l'objet. L'invariance, c'est-à-dire une stabilité dynamique, gyroscopique, c'est-à-dire égalité de distance par rapport aux autres objets, tout étant en mouvement. Cette régulation-là est au cœur de la trialectique.